Les discussions du soir. Les discussions du soir. Chaque lundi, Frédéric Vorm se pose son regard de philosophe sur les grandes problématiques qui s'imposent à notre société.
Les discussions du soir, je reçois ce soir Claude Mouchard, poète, critique et traducteur. Bonsoir Claude Mouchard.
Bonsoir Frédéric Vorms.
Merci d'avoir accepté de venir discuter dans cette émission qui justement est une discussion, une conversation et où nous allons aussi parler de la conversation, de certaines conversations qui ont eu une importance particulière pour vous. Mais d'une manière générale, qu'est-ce que vous pensez, vous, poète, traducteur et critique de la conversation? Est-ce qu'elle fait partie de tous ces exercices de la parole? Est-ce que c'est de toute façon un exercice privilégié de la parole entre les êtres humains?
C'est vraiment un risque pour moi.
La conversation?
Ouais.
Toujours?
Toujours. D'abord, ça m'irrite très vite.
Une vraie conversation doit vous irriter?
Oui, très, très facilement. Oui. J'aime beaucoup, je n'aime rien tant que me taire pendant des journées. Oui. Pardon, je ne suis pas un bon client. Là.
Mais la conversation vous irrite pourquoi, Claude Mouchard? Parce qu'elle vous force à parler? Parce qu'en fait, c'est une parole vaine? Parce que c'est une parole qui peut se perdre? Gilles Deleuze aussi, hein, philosophe.
Oui.
Et la philosophie, en général, est perçue comme un art du dialogue. Gilles Deleuze était célèbre pour avoir dit « discuter ne sert à rien ». La philosophie n'a rien à voir avec le dialogue. Discuter ne sert à rien. On a ses positions, on a ses idées, et discuter avec autrui, finalement, ne sert à rien. Évidemment, c'est un geste un peu violent de dire ça quand on est philosophe. Mais est-ce que vous diriez ça de la conversation? Quel est le nerf de votre critique de la conversation, de votre résistance?
Ouais. D'abord, une chose qui m'énerve, mais vraiment, basiquement, hein,
oui.
C'est, par exemple, dans le train, je prends le train, ça, j'entends les gens parler. Ce qui m'énerve, même à la radio, même à France Culture, hein, tout le fatisme, vous voyez,
Le fatisme, c'est-à-dire le fait de parler de ce dont
on parle. De s'encourager à parler.
Du
fait de parler, exactement. Voilà. Toutes ces formules-là, elles sont chez moi tout aussi présentes que chez n'importe qui. Mais pourtant, je les perçois comme des petites bêtes qui me courent partout. Enfin, ça m'est difficile à supporter.
Oui. Oui, mais est-ce que ça, pour vous, Claude Mouchard, est-ce que ça se fait nécessairement partie de la conversation? Ou bien est-ce que ce qu'on pourrait appeler une vraie conversation, c'est justement une conversation où on oublie le fait qu'on parle, et puis on parle parce qu'on parle avec quelqu'un et de quelque chose. C'est-à-dire que ce qui fait une conversation, c'est ces deux choses-là. Parler avec quelqu'un, de quelque chose qui tout à coup leur permet aussi d'être ensemble, un objet commun et finalement qui fait oublier le spectacle, la cérémoniale de la conversation.
C'est vrai. Non, vous avez raison, j'étais provocant, un peu provocateur, Frédéric Vorms, mais en effet, bien sûr, je souffre au contraire, souvent, d'un manque de vraie conversation au sens où vous le dites. Mmh. C'est plutôt ça que je dirais plus sérieusement.
Mais en même temps, ça a des conditions peut-être. C'est-à-dire qu'il faut se souvenir qu'effectivement, être ensemble et être deux êtres qui parlent ne fait pas toujours conversation finalement.
C'est vrai.
Et quelles seraient ces conditions alors pour vous, avant qu'on prenne des exemples finalement et de conversations qui peuvent devenir si intenses qu'on peut vouloir en faire une écriture et un témoignage de l'époque? Quelles sont ces conditions, s'il y en avait? En général, il n'y en a peut-être pas. Peut-être que justement, c'est le hasard des rencontres.
Bon, on peut tout de même se dire, dans ce que vous disiez tout à l'heure, vos formules de tout à l'heure, il faisait songer, avoir un objet commun qui nous passionne et sur lequel on voudrait vraiment avancer ensemble, n'est-ce pas? C'est tout de même très...
Un objet commun pour lequel on aurait besoin de l'autre, justement, contrairement à ce que disait Deleuze, qui pensait que, parce que pour lui, la mauvaise conversation, c'était ce qu'on appelle aussi dans l'université le colloque, quoi. Le colloque, le congrès, tous ces mots qui commencent quand même avec le même préfixe, hein, le cum, le con, être ensemble, le co.
Oui.
Et en même temps, dans le colloque ou dans le congrès, il n'y a pas toujours la conversation, c'est-à-dire le fait vraiment de savoir déjà ce que chacun va dire, et finalement, ne pas avoir besoin de ce que va dire l'autre pour comprendre le monde. Finalement. Alors que dans la vraie conversation, on a besoin de l'autre. On sait qu'on ne sait pas et on a besoin de l'autre, finalement.
Je crois. La formule, ce que vous disiez me faisait penser à un mot de Queneau, je ne sais plus où, la conversation, disait-il. Bon.
Mais... C'est bien parce que ce n'est pas seulement un jeu de mots sur la conversation, c'est la transformation du mot qui nous fait le jeu de mots.
Exactement. Oui. Non, vous voyez, par exemple, avec quelques autres, j'ai été très proche, je crois, d'un philosophe. Moi, je ne suis pas philosophe. J'ai été très proche d'un philosophe qui s'appelait Claude Lefort. Et les conversations avec Claude Lefort pouvaient être parfois, pas toujours, c'est jamais garanti. Oui. On peut quelquefois, même dans la conversation privée, on peut sortir de là avec un grand mécontentement de soi-même et de l'autre. Mais quelquefois, les conversations avec Claude Lefort ont été pour moi décisives. Oui.
Mais justement, Claude Lefort, avec lequel vous avez beaucoup travaillé, dont vous avez aussi publié des textes, un dernier volume majeur intitulé Le temps présent, un recueil de textes de circonstances aussi, au sens très fort du terme. Claude Lefort ne devait pas être commode dans la conversation avec vous, Claude Bouchard. Peut-être que ça devait être quelqu'un dont les colères démocratiques étaient célèbres, dont l'indignation était importante. Et au fond... vous deviez peut-être avoir à la fois peur de l'indigner et parfois être un peu soumis à son... Mais la colère peut être... L'irritation dans la conversation peut faire partie de son intérêt, pas seulement de ses dangers. Vous avez parlé des risques, mais parfois, justement, partager une indignation, rencontrer une indignation, c'est aussi s'apercevoir que ce qu'on dit, sans le savoir, n'était pas... comportait quelque chose d'inacceptable. Oui. C'est découvrir aussi ce qui est inacceptable pour l'autre.
Et inacceptable pour soi-même, dès l'instant où on en prend conscience.
D'une certaine façon, pour soi-même.
On s'est pas aperçu de ce qu'on était en train de dire, finalement, et la conversation permet de se retourner sur ce qu'on était en train de dire, ou sur une façon de dire qui peut être, en effet, inacceptable. Ça m'est arrivé avec Claude Lefort, mais ça m'est arrivé de m'opposer à lui violemment, dans la conversation privée, comme ça.
Mais ça, ce n'est pas des irritations que vous regrettez, c'est des irritations...
Pas du tout, et c'est des conversations... je pense que c'est des irritations qu'il acceptait aussi, finalement. Voilà. C'est pas du tout quelqu'un qui était pourtant, en effet, disons, je crois, célèbre par une forme d'irritabilité, d'intransigeance, de tranchant quelquefois, mais c'est pas du tout quelqu'un qui s'entêtait quand il y avait un face-à-face tout d'un coup sur un sujet vraiment brûlant entre nous. Ça pouvait arriver, ça m'est arrivé.
Il pouvait admettre qu'il se trompait ?
Absolument.
Ça fait partie aussi de la conversation, ça.
Absolument. Moi, je me souviens très bien de l'avoir écrit une fois, ce que vous m'avez dit, c'est inadmissible. Il m'a dit, ok, d'accord.
Alors, Claude Lefort était aussi un élève de Maurice Merleau-Ponty qui disait découvrir ce qui est inacceptable pour nous. Ce qui pour nous est inacceptable, c'est l'essence même de la philosophie, au fond. Et peut-être qu'on pourrait le dire aussi de la poésie. Claude Mouchard, vous aviez donc avec Claude Lefort des discussions qui mêlaient aussi le rapport poésie-philosophie et puis un rôle politique de la poésie et de la philosophie, d'ailleurs. Oui. Et dans la conversation, il y a du politique, finalement. Il y a du désaccord.
Ah bah, oui, pour moi, c'est essentiellement, oui. Il y a essentiellement une dimension politique, oui. En parlant avec Claude Lefort, la dimension politique n'était pas simplement l'objet de nos conversations, c'était en acte, oui. Oui. Lefort, il dit quelque part, je vais citer très inexactement, mais c'est à propos de Solzhenitsyn, je crois, il parle de prendre la parole, mais prendre la parole, c'est vraiment interrompre des rapports en cours. C'est vraiment s'insérer dans des rapports en cours en les transformant.
C'est ça. Donc il y a au fond une première forme de conversation qui nous irrite justement parce qu'elle est superficielle, elle ne change rien à la parole. Et dans la vraie conversation, il y a une vraie irritation qui peut être aussi quelque chose comme une indignation ou une colère. Et ce genre de conversation, au fond, nous conduit directement à ces conversations dont j'aurais envie qu'on parle ce soir, Claude Mouchard, c'est-à-dire au fond ces conversations que vous avez eues avec quelqu'un qui est devenu votre ami, mais que vous avez d'abord accueilli. Vous dites très clairement à un moment qu'il n'y avait pas eu pour vous parce que c'était lui, parce que c'était moi. C'est-à-dire que votre amitié n'était pas dans une sorte de choix individuel, intime, comme entre Montaigne et la Boétie, mais vous êtes venu, vous êtes tombé de l'extérieur, puisqu'il s'agit de quelqu'un que vous avez accueilli, de ceux que nous appelons aujourd'hui, il faut mettre beaucoup de guillemets, des migrants ou des réfugiés. Claude Mouchard, est-ce que vous pouvez nous rappeler d'abord comment la conversation est venue dans cette relation ? Et peut-être cette relation est devenue une relation grâce à la conversation.
Oui, c'est ça. C'est, bon, c'est un type, il s'appelait, donc on peut dire maintenant son nom parce qu'il est mort. Il voulait pas que je dise son nom dans des circonstances publiques. Mais maintenant je peux le dire, je crois. Il s'appelait Khaled Mansour.
Khaled Mansour.
Oui. Et il était un paysan du Darfour. Il avait fui le Darfour. Je sais plus maintenant, il faudrait que je cherche, mais peut-être une quinzaine d'années, au moment de grandes violences, et en laissant derrière lui sa mère et ses sœurs, son grand-père qui était encore vivant, je crois, à ce moment-là. Et donc il a fui le Darfour, et après toutes sortes de péripéties, du temps passé en Libye, le temps atroce, parce qu'il avait une haine pour la société libyenne, à ce moment-là, pas celle d'aujourd'hui.
Là, on est au début des années 2000,
c'est ça, Mouchard. C'est ça. Il s'est retrouvé donc finalement en France, je peux vous raconter tout. Il s'est retrouvé en France, sur les bords de la Loire. Moi, j'habite à Orléans. Et ma femme s'occupe beaucoup de choses sociales, d'associatives, etc. On a été alerté qu'il y avait une trentaine de types paumés dans les broussailles au bord de la Loire. Ouais. On y est allé. Et puis, il y a eu cette rencontre à peine avec lui. On s'est à peine. Enfin, bon, deux ans plus tard, peut-être, il a rencontré ma femme dans la rue. Il lui a fait signe. Il était, depuis deux ans, il vivait vraiment dans la rue, sous les ponts, sans rien. Il lui a fait signe, je l'ai rencontré, enfin on s'est tout. Et il s'est trouvé qu'on avait dans notre vaste maison, on a une vaste maison à Orléans que vous devriez connaître, Frédéric Vance.
Mais très volontiers, comme vous, ça. Très volontiers pour prolonger la conversation.
Oui, et puis il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de monde dans cette maison. Et donc là, il se trouvait qu'on avait un endroit pour le faire vivre, et on lui a proposé de venir. Et donc, il est venu chez nous, et il a vécu 8 ans chez nous. Voilà. La conversation...
Oui, absolument, Claude Mouchard. La conversation, vous l'évoquez dans plusieurs très beaux textes qui sont des fragments d'une longue conversation continuée avec lui. Deux d'entre eux sont parus dans la revue Poésie. Le premier d'entre eux, d'ailleurs, masque son nom encore sous le pseudonyme qu'il vous avait demandé de lui donner. Exactement. Pour le protéger. Oui. Le deuxième, malheureusement, déjà posthume, donc porte... cette fois son nom que vous venez de rappeler, Khaled Mansour. Et finalement, dans ces textes, il y a les échos de cette conversation, mais parce que vous preniez des notes, mais justement, vous preniez des notes en hommage déjà à cette conversation, parce que cette conversation vous est survenue. Comment est-ce qu'elle est survenue dans le cours de cette relation? C'est-à-dire, comme vous l'avez très bien décrit, ça commence par être une relation d'accueil, oui. de secours, presque, oui. On pourrait dire. Je dirais, oui, je ne sais pas comment vous voulez la nommer, d'hospitalité, de solidarité, d'accueil, de secours, d'humanité, face à une détresse, d'abord de quelqu'un. Et puis finalement, dans cet accueil vient la conversation. Oui. Claude Mouchard.
Oui, oui, Frédéric Rome, vient la conversation, c'est la formule, mais elle n'est pas venue comme ça. Vraiment, ça, je l'ai décidé.
Vous l'avez décidé?
Oui, j'ai décidé. Parce que dans cette maison, on a accueilli beaucoup de gens au fil de... On a vécu dans cette maison pendant presque 50 ans. Oui. Il y a eu plein de gens dans cette maison. Hein, des Asiatiques, des Iraniens, des Turcs. Bon. Mais lui, quand je l'ai vu dans l'état de détresse...
C'est une maison du monde. C'est une maison...
Oui, c'est un peu, il se trouve que ça s'est fait comme ça. On ne l'a jamais décidé, mais ça s'est fait comme ça. Oui,
mais le monde a besoin de maisons, hein, oui, surtout en ce moment.
Oui, oui. Oui, ben ça, je le revendique absolument. Oui. Voilà. Bon. Si j'ai une chose à revendiquer, c'est bien ça. Cette maison, en effet, du monde. Enfin, dire. Tout à fait.
Et donc, vous n'avez pas toujours eu ce désir de conversation.
C'est ça. Par exemple, il y a un Cambodgien victime, enfin qui avait fui les Khmers rouges, qui s'était retrouvé dans des camps et qui finalement est arrivé en France, et qui est venu habiter chez nous comme ça. Bon, moi, je m'entendais bien avec lui, mais je le trouvais un peu emmerdant, tout simplement.
Pardon. Mais non, je pense qu'au contraire, c'est extrêmement important. Oui. C'est ce qui permet de dire qu'on peut être dans l'accueil, dans la solidarité. Et ça n'a pas besoin d'être de l'amour avec un
bien
grand
sûr,
A.
C'est
beaucoup plus simple, voilà. Et beaucoup plus ambivalent et beaucoup plus normal, entre guillemets. Et
c'est... Oui, on a vécu bien. Oui, il m'est arrivé de me fâcher aussi contre des gens qui étaient là. Je me souviens d'un Azaïrois et je lui ai dit, bon, maintenant, c'est terminé. Bon, voilà, ça m'est arrivé. Oui. Bon, alors Khaled, moi je l'appelais Khaled, hein, parce qu'on était en France, on était dans notre maison, comme dirait Sarkozy, on était en France, on s'appelle Khaled.
Vous avez des références philosophiques, écoutez, Claude Mouchard, de bon calibre.
Pas, bien sûr. Donc Khaled était devenu gaulois, si vous voulez, c'est à peu près ça. Oui.
Non mais effectivement, la question du nom est pas sans importance en un sens, dire Khaled ou Khaled, et comme on est parfois choqué par le snobisme de certaines personnes qui disent Johann Sebastian Bach sur France Musique, on peut dire Bach. bac.
Oui, d'accord.
Donc voilà, c'est comme Khaled.
Non, je lui ai dit, mon vieux, allez, terminé. Moi, je m'appelle Claude, tu t'appelles Khaled, ça se ressemble en plus, c'était très bien. Bon, okay.
D'accord.
Bon. Et simplement, non, pour revenir sérieusement à votre question, Frédéric Worms, sur la conversation avec spécialement Khaled, oui, j'ai décidé vraiment.
Mmh.
Et.
Qu'est-ce qui vous a...
Qu'est-ce qui m'a... Je ne sais pas exactement. Mais je lui ai dit, je le décide. Mmh. Je lui ai dit, mon vieux, maintenant, quand on peut, dès qu'on peut, on se met face à face, de la table de la cuisine, simplement,
ouais.
Et on parle. Et au début, il faut dire qu'il parlait presque pas le français.
Mmh.
Et je peux vous dire des anecdotes, là.
Mais au contraire.
Non, Claude, parce que ma femme nous entendait parler.
C'est les anecdotes qui font la conversation et il faut parler des anecdotes.
En effet. Et moi, vous savez, j'ai fait une chose que j'ai faite beaucoup dans ma vie, c'est traduire de la poésie.
Oui.
Mais ce que j'aime, c'est traduire des langues que je connais pas.
Ah oui. C'est un défi. C'est un certain défi, quand même.
C'est un certain défi. Mais je suis très fier enfin, je revendique absolument. Et dans l'autre monde aussi, je revendiquerai.
Mais vous les apprenez en les traduisant?
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Non. Ce que je souhaiterais, c'est ne pas savoir ma langue moi-même. Enfin, ça, c'est autre chose. Ça, pour moi, c'est un peu ça, la poésie, c'est ne pas savoir sa langue. Bon, mais
donc, vous le faites avec quelqu'un qui connaît
bien
la langue.
Bien
donc,
sûr,
en
c'est
fait,
un faux mystère.
C'est justement traduction qui est donc déjà une conversation, une relation avec quelqu'un.
Et comment?
Et autour d'un objet qui est la langue de l'autre.
Mais c'est exactement ça. Et c'est ce qui s'est passé avec Khaled.
D'accord.
C'est-à-dire, ce type, sans doute, tout de suite, j'ai senti quelque chose chez lui. C'était un bonhomme, quoi. Il était là.
Mmh.
Vraiment, il était là. Mmh. C'était un type un peu terreux, un peu. Mais c'est un des hommes dont j'ai le plus senti dans ma vie la présence, quoi, réelle.
Mmh.
Voilà. Et j'ai voulu parler avec lui. J'en avais envie.
Donc c'était pas parce que c'était un poète ou un intellectuel comme vous, mais qui n'êtes pas que ça, mais qui avait ça dans votre travail, et c'était simplement sa présence à lui, qui était justement un paysan soudanais habitant chez vous et qui vous a donné ce désir de parole, de discuter.
Oui, vraiment, et je vous assure qu'il n'y avait pas du tout de sentiment, même dans la parole, de dénivellation. C'est un homme qui pouvait se fâcher très fort. Hein.
Mmh.
Une fois, je l'ai emmené...
On retrouve la colère.
Oui, on retrouve la colère. Mmh. Et il était capable d'être coléreux. Une fois, je l'ai emmené voir un prétendu spécialiste du Soudan, etc. On est sortis de là, il était absolument furieux. Voilà. Parce qu'on lui faisait la leçon sur ce que le Soudan était.
Il avait de quoi être en colère, oui. Khaled Mansour, Claude Mouchard, puisqu'il il avait quand même vécu les expériences extrêmes qui mènent aujourd'hui sur ces chemins de l'exil, d'un exil ponctué de violences, de raquettes, de menaces et de dangers, et aussi de déni de droit, de déni de justice. Donc il avait le droit d'être en colère, mais peut-être que la colère dont vous parlez, c'était une colère encore plus forte que j'allais dire simple. Simplement, cette indignation en général, c'était aussi des colères justement face à des comportements...
Oui, il les a connus.
Des colères, j'allais dire, normales qu'on pourrait avoir absolument. Tous face à n'importe quel abruti qui passe.
Absolument. Il a connu tout ça, les humiliations aussi dans les démarches administratives. Il était très souvent humilié. Et c'était un homme qui était fier, qui n'aimait pas être humilié du tout. Bon, quand on parlait, je voudrais revenir à la pratique même de la conversation.
Oui.
Vous voyez, le rapport avec la traduction est évident. Il parle très peu le français au début. Donc, il lançait, on parlait un peu en anglais aussi. Les Soudanais, il y avait de l'anglais, il connaissait un peu aussi, pas beaucoup, mais tout de même. Donc, lui, sa langue, c'était l'arabe. Hein. Mmh. Donc, il lançait des bribes.
Mmh.
J'avais l'impression que c'était un arc. C'est ça la conversation.
Donc très concrètement, il lançait quelques mots.
Et moi j'écoutais, ouais. Et je reconstituais. Et je fais ça aussi avec mes co-traducteurs pour les langues que je connais pas. C'est-à-dire, il me lance des trucs,
ouais.
J'attrape au vol et on a, pour moi un poème qu'on traduit, c'est un poème possible. La conversation avec lui, ça devenait du langage possible.
Et donc au fond, vos questions à vous étaient des hypothèses sur ce qu'il venait
exactement.
De dire. Et d'hypothèse en hypothèse, vous
exactement.
Construisiez ou reconstruisiez un rapport et,
oui.
Et le sens et de ce qu'il voulait dire. Au fond, les hypothèses étaient aussi une invitation. À en dire plus.
Exactement.
Ce qui est très fascinant dans ce que vous racontez là, Claude Mouchard, c'est que votre pratique de la poésie, de la traduction poétique, c'est comme si ça vous avait permis cette conversation. Peut-être que nous qui attendons de l'autre qu'il fasse des phrases et que nous répondions et ainsi de suite, on aurait eu plus de mal à engager cette conversation. Mais vous aviez une sorte de quête, de pratique de ça.
C'est ce que ma femme m'a dit en se moquant un peu de moi, en m'écoutant de la pièce voisine. Elle m'a dit, il n'y a que toi qui traduis des langues que tu ne connais pas,
oui.
Qui peut avoir une pareille conversation.
Est-ce que vous pouvez vous rappeler d'un exemple dans vos très beaux textes de la revue Poésie, il y a évidemment des fragments et des exemples, mais il n'y a pas cette sorte de matérialité de la rencontre avec le mot le mot énigmatique. Il y a aussi toute une construction poétique autour de cette conversation. Mais est-ce que vous vous souvenez d'un exemple, d'un mot, par exemple, en anglais ou en français que vous auriez creusé ensemble avec Khaled?
Alors, mais ça, c'est lié aussi à mon ignorance, parce que j'étais aussi un ignorant sur des choses qui, pour lui, étaient évidentes.
Oui.
Il employait tout le temps un mot... Il disait, il essayait de m'expliquer, je ne comprenais pas. Maintenant, je serais moins stupide. J'ai lu, j'ai appris depuis, j'ai passé 10 ans à essayer de comprendre un peu aussi. Il employait le mot de tribe.
Tribu.
Je me disais, qu'est-ce que c'est que ça? Puis j'avais presque peur que ce soit un truc un peu...
Oui, nous, en France, le tribalisme,
c'est un peu méprisant, quoi.
Et
pas du tout. Bon, c'était évidemment la question des ethnies, donc maintenant, j'ai compris. J'en parlais encore hier avec des amis soudanais dans ma cuisine, toujours. Ouais. J'ai toujours plein d'amis soudanais. Et donc, tout de suite, mes amis soudanais savent qu'ils appartiennent à telle ou telle ethnie, etc. C'est très important.
Et donc, quand il a dit tribe, qu'est-ce que vous avez fait?
J'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qui est ensemble, par exemple? Ça veut dire ça réunit qui?
Ah oui, d'accord.
Qui s'apprend ensemble, ce mot-là? Khaled, qu'est-ce que tu mets ensemble, là? C'est qui avec qui? Vous voyez? D'accord. C'est qui avec qui, par exemple?
Je comprends. Hein? Donc, c'était aussi parce que vous vouliez lui montrer que pour vous, ce mot n'allait pas de soi.
Je comprenais pas. Juste, voilà. Je lui ai dit, Khaled, je comprends pas. Bien sûr, je lui disais, je comprends pas. Mmh. Il aimait bien que je comprenne pas. Il était content, quand même. Il aimait bien m'expliquer.
Oui, parce qu'au fond, ça nous permet de comprendre que justement, ce mot tribu n'est pas juste un retour dans l'actualité contemporaine de phénomènes ethnologiques abstraits ou d'archaïsme humain, mais a un sens concret et finalement, peut-être que nous vivons nous aussi, sans le savoir et d'une façon profonde, pas sous la mode, mais cette question de l'appartenance.
Mais pour lui, c'était très important. Son père et sa mère n'appartenaient pas à la même tribe, il m'a expliqué ça, il a fallu que je comprenne. Pour lui, c'était très important aussi au sens où ça a eu des conséquences très directes. Il appartenait à une ethnie qui était transfrontalière, c'est-à-dire qui était aussi du côté du Tchad.
D'accord.
Donc il y a des gens appartenant à la même ethnie qui peuvent facilement passer de la frontière. Et quand on lui a refusé le statut au début, c'est un des drames du début de son séjour en France, c'est qu'on lui a refusé le statut de réfugié politique. Et j'ai lu les attendus de l'OFPRA, c'était scandaleux, j'étais révolté vraiment. Mais on disait, on n'est pas sûr qu'il soit soudanais, il est peut-être tchadien.
D'accord. Voilà. Et donc, au fond, la réalité du mot tribu, tout à coup, faisait éclater ces autres réalités, ces frontières et toutes les violences auxquelles elles peuvent donner lieu.
Absolument.
Claude Mouchard, vous avez choisi pour illustrer notre discussion de ce soir un morceau de Gyorgyi Kurtag qui est intitulé en hongrois Diatekok, un mot d'une langue que je ne connais pas, mais ça ne vous gêne pas, Claude Mouchard, puisque vous traduisez les langues que vous ne connaissez pas. Et ce mot, vous savez quand même qu'il veut dire je. Et c'est un morceau à quatre mains, deux pianos qui discutent.
Pas deux pianos, un piano.
Pas deux pianos, un seul piano, un évidemment, piano, à quatre mains.
C'est un piano à quatre mains et en plus un piano droit.
Est-ce que vous pouvez nous dire alors le lien pour vous entre ce morceau de musique et la conversation, celle dont nous parlons et celle que nous avons ce soir?
C'est parce que pour moi, ces Diatekok sont vraiment, c'est une série de morceaux. Hein. Il aime par exemple beaucoup Schumann, il aime bien les séries de morceaux comme ça. C'est vraiment une conversation. Ouais.
Une conversation entre...
Entre sa femme et lui.
Entre sa femme et lui, qui jouait avec lui. Donc
oui, mais au sens où sa femme... Je crois pouvoir dire, j'espère qu'il serait pas fâché de ce que je peux dire maintenant, mais je crois que sa femme, pour lui, dans sa création musicale, est très importante, c'est un pôle, véritablement. Donc il y a aussi une forme dialogique, là, de la création.
Alors, Claude Mouchard, avec les conversations que vous aviez avec Khaled, vous n'avez pas fait de la musique, vous n'êtes pas musicien, compositeur, pas directement, mais vous êtes poète, et vous avez écrit des textes, donc j'en citerai deux. Ousmane pour commencer, de Darfour à la Loire, avec Ousmane pour commencer, et puis ensuite, tout seul, Khaled, point d'interrogation. Un texte qui commence d'ailleurs par une phrase de Khaled, « Je veux pas rester tout seul ». Et ces textes sont séparés d'une dizaine dizaines d'années. On aurait envie de vous demander, au fond, d'une manière un peu superficielle, comment vous concevez le rôle de la poésie dans la situation politique d'aujourd'hui ? C'est-à-dire, au fond, c'est, entre guillemets, migrants, réfugiés. Cette violence qui leur est faite, elle leur est faite aussi à travers le langage. Est-ce que la poésie a un rôle particulier pour lutter contre cette violence, pour l'exprimer d'abord et pour nous la transmettre ? Mais avant de poser la question en général, qui me paraît très importante, peut-être est-ce que vous pouvez nous dire comment vous êtes passé de la conversation au poème ou au texte qui la restitue ? Est-ce que c'est un passage ? Est-ce que la poésie était déjà dans la conversation ? Est-ce que la conversation reste intégralement présente dans la poésie ? Quel est, au fond, ce rôle de votre écriture, ce travail de la poésie et cette manière dont elle répond à l'exigence de la conversation avec Khaled ?
Oui, Frédéric Worms. Je pourrais me dire par moment que la poésie est antinomique avec la conversation. Pourquoi ? Parce que dans une conversation, on peut se dire que la chose, c'est deux interlocuteurs assurés de leur identité face à un objet commun, c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Au début.
Voilà.
Oui.
En réalité, dans ces situations comme celle de Khaled, et non parce que je parle aussi avec des Soudanais, on dit Khaled à ce moment-là. Bon, d'accord.
On est au cœur du problème avec ces deux prononciations.
Voilà. Dans ces situations-là, que fait la poésie ? La poésie, c'est justement cette situation de parole où celui qui parle ou celle qui parle n'est pas assuré de sa position et de son identité, régresse, je dirais en un sens, et repoussé par ce dont il parle, ou par ce à quoi il a affaire, plutôt que ce dont il parle d'ailleurs, et repoussé en deçà de soi-même, et dans un moment de quasi-dissolution de soi-même. Reflux en arrière dans une espèce de nuit, où on ne sait plus très bien qui on est et comment on va parler. Et ça, c'était un rapport avec Khaled.
D'accord. Alors pourquoi est-ce que cette conversation particulière repousse vers ces frontières du disciple, justement, en nous-mêmes, nous dessaisit un peu de notre parole? Est-ce que c'est la violence qu'avait subie Khaled? Est-ce que c'est la déstabilisation aussi de son accueil ici, de son exil, de sa différence, pour le dire un peu brutalement? Oui. Est-ce que c'est cela qui suscite ce retour que le poétique fait de toute façon, fait aussi à notre précarité dans la parole?
Le poétique, pour moi, aujourd'hui, en tout cas, je n'ai pas une définition de la poésie en général, bien sûr, mais Frédéric Worms, aujourd'hui, pour moi, le poétique peut, je dis pas doit, il n'y a pas de doit en poésie, ça m'est insupportable, ça, mais le poétique peut être ce qui, en effet, à la fois risque de se taire, est au bord du silence, car il y a du silence dans la poésie constamment. La poésie, c'est aussi la parole qui est constamment interrompue, la parole qui est constamment soufflée, comme dit l'autre, qui réémerge. Et cette parole-là, qui est risquée comme parole, qui risque tout le temps de disparaître et qui doit tout le temps renaître, eh bien, elle est le fait d'un sujet qui est en train, par moment, de se défaire comme sujet. On dirait, évidemment, dans la vie, moi dans ma vie, dans ma cuisine et tout, qu'est-ce que ça veut dire? Et ben, pourtant, c'est comme ça.
Voilà. Mais alors, Claude Mouchard, vous dites que vous n'avez pas de définition de la poésie, et bien sûr, ce serait sans doute contradictoire d'en avoir une, puisque précisément, c'est ce dessaisissement, mais quand même, dans votre livre majeur, enfin, à mes yeux, fondamental, vraiment, dont je rappelle le titre, « Qui, si je criais ?», point d'interrogation, c'est le début d'une élégie de Rilke, sous-titré « Œuvre-témoignage dans les tourmentes du XXe siècle », vous élaborez cette idée d'œuvre-témoignage, qui pour vous est au fond renvoie à cette aspiration poétique, c'est-à-dire à la fois de témoigner, d'exprimer d'abord un dessaisissement, une souffrance vitale, ou en tout cas une expérience qui nous défait, et en même temps d'en faire une œuvre, c'est-à-dire c'est pas juste une déposition, c'est pas le témoignage au sens d'une déposition devant un tribunal humain, c'est aussi une adresse lyrique vers le lecteur inconnu, c'est une expression qui cherche aussi à dire pleinement ce dont elle est dessaisie. Oui. Donc, qui en un sens est aussi une œuvre. Et donc, j'entends dans poésie ce double sens d'expression et de formation aussi, de résistance active à ce qui nous dessaisit, d'expression au sens très fort du terme.
Oui.
Est-ce que c'est ça que vous vouliez dire quand même par ce surgissement de la poésie déjà dans la conversation avec Khaled et dans la situation tragique qui vous était commune justement ?
Oui. Commune, c'est beaucoup dire.
Commune, c'est-à-dire qu'en fait, par votre indignation, vous partagez aussi quand même. C'est très important, à mon avis, peut-être que vous n'allez pas être d'accord, mais de dire qu'elle est commune. Bien sûr, vous n'avez pas vécu son exil, mais justement, vous n'étiez pas indifférent à son exil. Non. Cet exil vous concerne, nous concerne.
Et ce qui me concernait aussi, ce qui me concerne aussi, comme jamais, c'est le type d'appartenance. Au contraire, si vous voulez, qui semble être le contraire. C'est-à-dire l'appartenance assurée, l'appartenance garantie, l'appartenance me fait problème.
C'est ça.
Bien sûr. Y compris en parlant, en essayant de parler poétiquement. Ça me fait problème, bien sûr. Toutes les garanties, toutes les formulations qu'on nous donne de notre appartenance me font, comme j'imagine et j'espère à beaucoup de gens, me font problème.
Oui. Donc c'est encore d'une autre façon que la poésie rendait possible votre relation avec lui. C'est parce que précisément, admettant ce dessaisissement dans votre vie et dans votre parole, vous pouviez comprendre le sien.
Oui, je le crois.
En tout cas, vous pouviez essayer d'y accéder.
Je crois qu'il pensait que je pouvais, par moment, comprendre ce dont il me parlait et comment il en parlait. Je crois vraiment.
Il avait perçu votre rapport à la poésie
Je lui ai beaucoup expliqué. Je lui ai expliqué, on en parlait, bien sûr. C'était un type, mais vraiment extrêmement subtil. Et il aimait la parole. Il me parlait il me parlait de la parole dans sa maison familiale, c'est-à-dire, il vivait avec son grand-père, son père, il avait vécu très vite à Niala, dans la ville de Niala, et puis son père est mort et toute la famille est partie chez le grand-père maternel, dans la campagne du Darfour. Et là, son grand-père maternel et sa mère, par exemple, parlaient une langue que lui ne connaissait pas.
Ah, oui.
Et ça le fascinait beaucoup. Il m'en parlait souvent. Il y avait donc une relation langagière aussi. Donc il aimait beaucoup ces situations compliquées de langage. Ouais, ça l'intéressait.
Pour vous, Claude Mouchard, c'était pas au fond un poète qui s'enquiert de l'extérieur de la parole de quelqu'un. C'était vraiment une symétrie dans une différence très profonde, créée par la situation, créée par des histoires, mais une vraie relation. Et en quoi, revenons un peu au rôle politique de cette conversation. Il y avait du désaccord, c'est aussi du politique, il y avait de la différence. Mais en quoi est-ce que, justement, montrer cette résonance entre un paysan soudanais et un poète français qui l'accueille dans sa maison, je caricature délibérément.
Non, mais on peut le dire comme ça.
Je caricature délibérément.
Oui, bien sûr. Oui.
Précisément.
Oui, tous les mots font sourire, évidemment, mais c'est vrai. Oui.
Mais précisément. Oui. Donc en quoi cette résonance dépassait-elle tous ces mots et a-t-elle un sens politique pour nous aujourd'hui dans ce monde où, finalement, d'une certaine façon, ce qui domine, c'est quand même cette situation de violence extrême, massive, à une échelle qu'on a quand même pas vu depuis très longtemps.
Oui, c'est vrai, mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure de ce que serait pour moi la poésie. C'est très gênant en même temps de dire les choses comme ça, mais les situations que Khaled avait vécues, de réduction à rien, à moins que rien. Par exemple, quand il était en Libye, il me parlait de sa vie en Libye, l'humiliation. Le racisme absolu en Libye. Hein. Le patron qui vous fait bosser et puis qui ensuite appelle les flics si vous réclamez votre paye. Le piétinement. Il était indigné de ça, vraiment. Et donc, le fait d'être moins que rien, pour moi, la poésie a quelque chose à voir avec ça. Voilà, je sais pas comment le dire autrement.
Mais vous le dites parfaitement bien, Claude Mouchard, mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est l'importance de le dire, justement. C'est-à-dire qu'au fond, la poésie a à voir avec ça, mais la poésie fait partie aussi des voix qu'on entend moins aujourd'hui. La poésie a un certain rapport au monde qu'on oublie aujourd'hui. Comment faire entendre cette importance de la poésie et son rapport au monde, justement, à l'actualité, parce que là, on est au cœur aussi de ce qui se passe, tout simplement. Oui, on est au cœur de ce qui se passe. On n'est pas dans une distance, j'allais dire, artistique. Même ce mot même serait gênant.
Absolument.
Donc, comment est-ce que vous prévoyez de faire porter ces voix dans votre écriture, est-ce que vous avez confiance dans le geste poétique? Je crois qu'il faut, mais comment est-ce que vous pouvez le transmettre, le porter? Claude Mouchard.
Il y a deux choses, mais Frédéric, confiance, j'en sais rien. Pour moi, si je le dis de façon pathétique,
c'est plus nécessaire que ça.
C'est absolument inévitable. Voilà, je peux pas faire autrement.
C'est la bonne réponse. Voilà. À une mauvaise question,
Non, non, non. La question, évidemment, il faut se la poser. On la prend un peu en pleine gueule, mais c'est vraiment une question. Pourquoi maintenant y a-t-il en effet un tel refus de la poésie, spécialement en France d'ailleurs? Haine de la poésie, comme disait Bataille. Pourquoi j'en sais rien. Je comprends pas.
Ce qui me fera beaucoup, Claude Mouchard, justement, c'est que si on voulait revenir à la poésie aujourd'hui, ce serait sûrement, entre autres, par votre chemin, c'est-à-dire par, justement, le retour vers ces œuvres dont tout le monde sait qu'elles sont importantes, dont on oublie la fonction poétique, et dont on oublie même que... D'ailleurs, dans votre livre sur les œuvres témoignages, vous ne parlez pas seulement de poèmes au sens formel du mot, au sens du genre poétique. Vous parlez aussi de récits, les récits de Chalamov, les récits... Mais quand même, la manière dont la littérature contemporaine, disons, est affectée par les épreuves vitales.
Oui.
Pour vous, je pense pas qu'on puisse prendre n'importe quel chemin pour faire revivre la poésie aujourd'hui. Il faut quand même qu'elle rende compte des épreuves de l'époque, des épreuves des corps, des épreuves des êtres humains.
Pour moi, oui. Mais une des choses aussi qui serait caractéristique du geste poétique, disons, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, Frédéric Worms, c'est le rapport à l'autre.
Dans la poésie.
Non, je parle pas là du. Enfin, je parle pas de ce qu'on évoquait à propos de Khaled, de Khaled. Non, vous voyez, prenons le terme, c'est très rebattu maintenant, mais le terme de Mandelstam, l'interlocuteur. C'est-à-dire, la poésie, spécifiquement, me semble-t-il, sans que ce soit une définition, j'en veux pas, la poésie peut avoir un geste. Alors. Entre l'apostrophe, l'adresse, la destination, c'est tout un battement. Pour moi, c'est formidable. L'adresse, c'est, on essaye de faire surgir dans le texte même quelqu'un à qui on parle. L'apostrophe, c'est quelqu'un qu'on prend à partie. L'adresse, ça peut être même une entité qu'on fait surgir dans le poème même. Et la destination, c'est...
L'entité, par exemple, on la nomme.
Dans la tradition, il y a toutes sortes d'entités possibles.
La muse.
Voilà, ouais, exactement. Mmh. Bon, c'est effectivement pas tellement ce qu'on fait aujourd'hui, mais il arrive cependant que tout d'un coup, on ait l'impression de parler à quelqu'un une présence qu'on fait surgir simplement dans le poème.
Ça, c'est... Et aujourd'hui, justement, et le titre que vous avez donné à votre livre, Claude Mouchard, le montre bien, aujourd'hui, il y a cette angoisse de l'absence d'interlocuteur. C'est de la poésie, il s'adresse, mais en même temps, aujourd'hui, l'angoisse de ne plus avoir quiconque à qui s'adresser. Et votre titre, Qui si je criais, trois points de suspension.
C'est quoi après ?
Voilà.
C'est m'entendrait.
Voilà.
Qui m'entendrait ?
Qui m'entendrait ?
Oui.
Et donc la question de Rilke, vous la laissez encore plus suspendue.
Oui, je l'ai effacé. J'ai effacé le pôle de l'auditeur, de celui qui reçoit. Je l'ai effacé, ça. Oui.
Vous l'avez effacé ou reporté ? Pas forcément.
Non, dans le titre, je veux dire. Je veux pas dire que je l'efface à jamais, pas du tout.
Si je criais, vous reculez d'un pas, comme si le XXe siècle avait fait encore reculer d'un pas cette question. C'est-à-dire, au fond, déjà, le geste de crier n'est plus évident. L'accès à la poésie, et on le voit bien, il a fallu votre conversation avec Khaled, l'accès à la poésie lui-même est menacé.
Le rôle de la poésie, est menacé, refusé, comme si on voulait savoir d'avance de quoi on parle et ce qu'on va en dire, comme si c'était déjà prévu. Avec la poésie, c'est totalement l'imprévu, en effet. Mais la poésie, ça peut être stupide, hein. Enfin, c'est pas du tout.
Est-ce que la poésie peut être stupide ? Est-ce que c'est pas plutôt quand même une ironie que vous employez pour protéger la poésie, mais est-ce que la poésie, quand elle répond à l'exigence que vous lui demandez ici, Claude Mouchard, est-ce qu'elle peut vraiment être stupide, ou elle est peut-être idiote au sens de Dostoïevski, c'est-à-dire l'idiot, mais est-ce qu'elle peut vraiment être stupide, ou bien...
Moi, en tout cas, je suis capable de produire des choses stupides que je relis le lendemain avec consternation.
Oui, donc c'est le regard critique. Alors, en quoi est-ce que le regard critique, justement, quand même reste indispensable ? C'est un point très important, parce qu'on a l'impression, finalement, sinon, que dans cette expression de soi, de la douleur, de la détresse, toute exclamation serait poétique. Qu'est-ce qui fait, finalement, qu'il y a toujours de l'exclamation dans le poétique, de l'adresse, comme vous dites, mais qu'est-ce qui fait quand même qu'il y a, je dirais pas des critères, hein, ce serait pas le mot, mais qu'une critique est possible et même nécessaire, et qu'il y a des œuvres qui pointent, qui marquent plus que d'autres, qui peuvent marquer parfaitement une expression même de détresse elle-même absolue. Qu'est-ce qui fait qu'il faut ces deux pôles quand même ? Effectivement, parce que ce mot stupide m'a frappé. Oui. Il veut aussi dire une exigence vis-à-vis de la poésie. Il n'y a pas seulement un désir, mais aussi une exigence. Comment est-ce que vous décririez cette exigence, Claude Mouchard ?
Si j'essaie de, il faudrait reprendre tout ce qu'on a dit parce que et en, donc et précisément sur la conversation en termes disons philosophiques de dialogue où on a un objet, on a des positions, on a des positions, des arguments. La poésie évidemment c'est pas ça, mais en même temps la poésie c'est pas du tout le pôle du, c'est pas du tout le discours rapporté au pôle d'un sujet qui dit moi je. Donc la poésie a affaire non pas du tout à l'espace dialogique de la, enfin non pas du tout quelquefois si dialogique de la philosophie, mais la poésie a affaire à l'antre, à l'espace entre, à l'espace où surgissent
les... Et quand est-ce que c'est manqué alors ? Quand est-ce qu'on dit c'est stupide ?
Tout d'un coup, j'ai l'impression d'avoir arraisonné l'antre, d'en avoir fait ma chose, d'accord, et d'être celui qui s'en sert.
C'est plus une sorte de trahison, dans une sorte de risque de la parole qui s'est laissé séduire par autre chose que son exigence
par soi-même
qui s'est laissé séduire par elle-même. Donc le poète est menacé par la séduction poétique qui l'entraîne hors de la de l'exigence poétique. Claude Mouchard, on s'approche vite du terme de cette conversation, mais je voudrais que vous nous disiez un mot de la manière dont vous voyez l'état politique du monde aujourd'hui, l'état de dont cette détresse exige ces recueils d'études de votre part, qui si je criais, mais aussi donc ce retour sur le XXe siècle et puis maintenant cette conversation continuée. Je crois que vous avez 1200 pages de notes de conversation avec Khaled. Ça, c'est un livre témoignage que vous écrivez vous-même. Maintenant, pour témoigner de cette époque, qu'est-ce que vous diriez maintenant, un peu directement, un peu politiquement, sans même le souffle poétique qui vous habite, ou bien d'une autre façon, de cette époque qui vous oblige à faire ça, qui nous oblige à répondre ?
Écoutez, non, je ne peux parler que d'une chose là, parce que sinon il y a tellement à dire. Il y a tellement de questions en effet. Et Lefort, j'ai reçu tellement de questions aussi. Si on en parlait.
Claude Lefort, je rappelle Claude Mouchard qu'on en a parlé au début de la conversation et que j'étais très heureux d'évoquer ce nom.
Donc là, ça serait difficile d'évoquer tout ça. C'est trop. Non, je dirais aujourd'hui très simplement et très vite. Évidemment, c'est quelque chose que tout le monde voit et sait. C'est évidemment pour toutes les raisons qu'on a évoquées. C'est la situation de justement des réfugiés, des sans-papiers, des gens sans rien du tout, des conflits terribles en effet, par exemple en Afrique. J'ai rapport à ça. Aujourd'hui, si je peux me permettre d'évoquer ça, je travaille pour la revue Poésie, puisque vous avez dit que j'ai travaillé.
C'est très important.
C'est très important. Je travaille à deux numéros, et c'est à cause de Khaled. C'est par affection et attachement pour Khaled. Je vais aller voir sa famille bientôt, au Soudan.
Au Soudan.
Oui. Eh bien, j'ai voulu faire deux numéros de la revue Poésie consacrés à des poètes africains d'aujourd'hui. Ça va faire 650 pages de poésie africaine qu'on publie. C'est pas rien.
C'est extrêmement important.
J'ai bossé pendant 3-4 ans là-dessus.
Claude Mouchard, je me souviens d'un numéro de la revue Poésie que vous aviez coordonné sur la poésie coréenne aussi, sur le langage coréen. Oui. Vous aviez traduit aussi les poèmes de la bombe atomique.
De Toge Sankichi, le poète
japonais. De Toge Sankichi, qui sont aussi d'une profondeur extrême vis-à-vis de cette violence extrême. C'est extrêmement important. Peut-être, on ne peut pas terminer sans revenir à Khaled lui-même. Oui. Il y a un épisode que je n'ai pas évoqué, et vous non plus pas encore, mais qui apparaît dans votre deuxième texte, c'est qu'au fond, vous l'avez vu mourir. Alors, il n'est pas mort, on pourrait presque dire, il n'est pas mort d'une mort violente au sens de la guerre, il n'est pas mort de noyé dans la Méditerranée comme certains de ses voisins ou de ses confrères en violence partagée, mais il est mort chez vous, quand même mort de cette violence politique, je pense, d'un infarctus dans votre salon. Claude Mouchard, vous n'avez peut-être pas envie d'en parler aujourd'hui, mais quand même, on ne peut pas ne pas évoquer cette expérience que vous avez eue qui est aussi un partage de la vie humaine.
Il est rentré du Soudan après un séjour de 2 mois au Soudan, où il s'est occupé de sa famille dans des conditions très difficiles et particulièrement épuisantes. Et il est rentré un samedi soir, le dimanche matin, vers 9h ou 10h du matin. Il est venu me trouver, il m'a dit « Claude, je me sens pas bien, je veux pas rester tout seul. » Voilà,
c'est ça. Ah, c'était ça, c'est la première phrase de votre deuxième poème.
Voilà, et c'est sur ces derniers mots, je lui ai dit « Pardonnez-moi d'être aussi trivial, la poésie c'est trivial pour moi. » Je lui ai dit « Je te fais une tisane, Khaled. » Je lui ai apporté une tisane et il s'est effondré. Vraiment, je l'ai ramassé dans mes bras et il était frappé d'un infarctus. Il est mort 3 jours après à l'hôpital. J'ai un ami, très bon ami sénégalais, qui m'a dit « Pardonnez-moi, c'est un peu trop sentimental, mais c'est lui qui m'a dit ça. » Il m'a dit « Il a voulu revenir mourir près de toi. »
Près de toi. Tout en ayant été revoir sa famille. Et donc, vous avez créé ce lien, une autre géographie, une autre raison de venir en France. Finalement, il est revenu, non pas seulement poussé par la misère, mais pour vous retrouver, oui. pour retrouver quelqu'un. C'est, oui, au fond, vous lui avez donné une autre raison de partir, et je crois que ça donne sens aussi à, autrement à ces circulations sur notre planète aujourd'hui qui sont tellement plutôt faites sous le signe de la détresse et de la nécessité violente. Claude Mouchard, je ne serai pas le seul à vous remercier beaucoup de la conversation de ce soir.
Merci Frédéric.
Les discussions du soir, Claude Mouchard, Claire Poinsignon, Claire Levasseur, Anne-Pascale Desvignes, Frédéric Vance.